C'est le banquet, écoute-moi, le banquet de Saint.
Rue des Granges, pas de
Rue des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse.
Bonjour Madame F. Putain, je m'appelle pas Madame F, je me suis jamais appelée Madame F. Tais-toi, on s'en fout. Bonjour docteur. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens qu'elle ne m'a pas demandé si elle me dérangeait, ni si j'étais disponible. J'ai vu son nom s'afficher sur le téléphone. J'ai hésité un quart de seconde. J'ai dit à Lucas, c'est le docteur D, c'était convenu qu'elle appelle avant ton départ. Excuse-moi, je réponds. J'ai décroché. Je tremblais encore de mon pétage de plomb. Mais voilà, ça devait être une formalité. Elle devait me dire ce que je savais déjà sur le scanner, s'assurer de la bonne livraison du concentrateur pour le voyage en avion, et puis bonnes vacances et basta. Mais elle ne m'a pas dit ça. Elle a dit que, suite au scanner, qui confirmait que les lésions étaient fixées, évidemment, ça fait 15 ans qu'elles sont fixées, c'est pas un scoop. Mais il n'y a aucune urgence qui justifie de me dire, comme ça, au téléphone, face à Lucas et à mon assiette de pâtes, sans me demander si je suis disponible. Voilà, il est nécessaire d'envisager un projet dont on n'a pas encore parlé. Mon cerveau passe en mode alerte rouge. Je dis à Lucas, excuse-moi, je sors de table. Voilà, il est nécessaire d'envisager une transplantation. Lucas est assez grand maintenant. Je ne comprends pas. En général, on ne greffe pas les enfants, sauf urgence vitale. Mais il a une taille d'adulte maintenant. Mon cerveau est brusquement noyé. Vous ne pouvez pas laisser Lucas se dégrader comme ça, dites-vous ? Comment comme ça ? Il y a un mois, vous avez commencé la consultation en disant que la situation était stable. Je ne comprends pas. Quasiment rien n'a changé. Je fais tout pour articuler des mots dans l'ordre. Pourquoi ? Maintenant ? Vous savez, le risque infectieux est tel. On ne sait pas du tout comment Lucas réagirait à une grippe. On n'est pas du tout sûr qu'il s'en sortirait. Oui, je sais cela. Mais cette situation dure depuis 15 ans, ce n'est pas nouveau, on y fait face depuis 15 ans, et plutôt pas mal étant donné les circonstances. Alors pourquoi maintenant ? Quand ? Vous envisagez ça quand ? Il faut prévoir un rendez-vous à la rentrée, je verrai aussi Lucas seul. Puis vous rencontrerez l'équipe de transplantation, et on engagera le bilan pré-greffe. Puis il sera inscrit sur la liste, ceci afin de pouvoir anticiper sereinement la situation et limiter le stress de l'urgence. C'est sûr. On est serein là, c'est très serein, cette manière de procéder. La situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'information. Mais l'information est telle qu'elle modifie la situation. Le plus difficile est de considérer la situation et de s'accrocher au fait qu'elle n'a pas changé. Il s'agit juste d'une information technique, terrifiante, mais technique. Impossible. Impossible à métaboliser. On ne peut pas métaboliser une bombe. Ce coup de fil, c'était ça. Une bombe. Mais on est des civils, nom de Dieu. Est-ce que les médecins pourraient envisager de se former à l'annonce de diagnostic, de protocole ? C'est pas compliqué. Enfin si, c'est compliqué une annonce, évidemment, mais pas de se former. Et l'opération, quand ? Entre dans 6 mois et dans 1 an et demi. Je dis que je dois réfléchir, je ne peux pas réfléchir. Je dis que je dois réfléchir. Je dois redescendre dans la cuisine maintenant. Lucas mange ses pâtes qu'il a terminées. Un peu plus tard, il part retrouver ses copains. C'est les vacances tout de même. Save Our Souls, 17 novembre 2018. Depuis un peu plus d'un an maintenant, Lucas ne rêve plus que de nouvelles baskets, de tels t-shirts, voire même de telles chaussettes, frappées bien entendu d'un petit logo qui leur confère une irrésistible attractivité et qui, par une mystérieuse capillarité, lui octroie un supplément d'âme. Notification de promotion sur son téléphone, cadeau d'anniversaire, argent de poche, tentative pour contacter les marques, tout est dédié à cette présente obsession. J'ai bien tenté lors d'un récent voyage en voiture de partager avec lui quelques réflexions constructives à ce sujet. L'échange a été plutôt fluide et dénué d'agressivité, mais tout se passait comme si les enjeux de cette fascination demeuraient en dehors de lui et de bonne foi ne le concernaient pas exactement. Il n'y a pas qu'à l'adolescence que nos blessures narcissiques s'abîment dans des injonctions de perfection, dans des reflets fictifs, dans l'irrépressible besoin de plaire et de consommer, et plus généralement dans toute forme d'addiction. 16 ans, doublés d'un redoutable handicap respiratoire, ne font qu'amplifier un déséquilibre ontologique largement partagé. Quel discours, mieux que des baskets neuves, sait conjurer la mort ? Être tout entier contenu dans un hoodie ou dans un nouveau survêt, quelle légèreté, quel contrepoids ! Pur présent, n'être plus que ce que l'on porte, n'être que cela que l'on voit de vous, ne faire plus qu'un avec son enveloppe, s'inscrire en faux contre toute profondeur, ignorer superbement tout ce qui empêche, contraint, étouffe ou terrifie. Quel meilleur anxiolytique qu'un petit signe sur un vêtement. Air Force, Air Max, Fly. Le pouvoir de rendre l'air plus respirable.
Bonjour, nous venons d'entendre un extrait d'Apnée, pièce écrite et lue par Sophie Thorezi, que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Rue des Majots. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sophie, tu es comédienne, tu as joué dans les créations de la compagnie de l'Arcade pendant une quinzaine d'années. Plus récemment, tu as joué avec la compagnie Josepha, avec laquelle tu coproduis Apnée, dont tu es l'autrice et à l'initiative du projet.
Oui.
Alors, Apnée, pour les auditeurs, c'est un projet très personnel. Pour le présenter, c'est ta propre histoire ?
Alors, oui, enfin, c'est ma propre histoire quand même transposée. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le théâtre documentaire. Donc, c'est vraiment basé sur une expérience singulière. Mais après, avec d'abord un travail d'écriture qui permet de mettre à distance un certain nombre de choses et puis de retravailler la question de façon... en tout cas, je qualifie le projet de docu-fiction parce qu'il y a une volonté. D'abord, les personnages ne sont pas strictement les personnages. Mais oui, en tout cas, c'est basé sur effectivement une expérience personnelle qui, en l'occurrence, est liée à l'accompagnement, à la vie, en tout cas au long cours avec un enfant... atteint d'une pathologie respiratoire,
Je vais présenter la pièce en deux mots, alors pour les auditeurs. Donc dans la pièce, c'est l'histoire de Lucas ?
Non.
L'histoire de Gaspard ?
Non. c'est l'histoire, j'insiste, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire de Lucas, c'est mon histoire de la maladie de Lucas. C'est-à-dire que, Lucas étant effectivement le personnage qui est la transposition de mon fils dans la vraie vie. Mais c'est surtout que je ne parle pas pour lui. Voilà, c'est juste pour insister sur la dimension subjective, en fait. Je ne raconte pas son histoire, je raconte mon histoire de la vie avec un enfant, effectivement malade. Je précise parce que ça me semble important par rapport au projet.
À 15 ans, lors d'un déjeuner, Julie, la maman de Lucas, reçoit un appel du pneumologue qui lui annonce d'envisager à court terme une double transplantation pulmonaire. Julie est choquée. Quand l'état de sidération passe, elle prend conscience des enjeux de la relation thérapeutique hospitalière et du peu de place laissée au libre arbitre du patient. Finalement, les parents de Lucas font le choix de refuser ce projet de greffe en mesurant les risques d'une telle opération. Dès lors, la communication avec l'équipe médicale est difficile et une médiation s'engage. Dans la pièce, parallèlement, Julie traverse les 15 dernières années de la vie de Lucas, de sa vie à elle, au prisme de la maladie de son fils. Elle relate, on a pu l'entendre dans les extraits, à la fois l'angoisse, mais aussi l'instinct de protection, le désir de laisser vivre son fils, à travers de petites chroniques de vie. Sophie, comment s'est fait le passage à la scène, de l'écriture à la scène, et qu'est-ce que t'a apporté ce travail ?
Alors, à l'origine du projet d'écriture, il y a une expérience d'écriture un peu particulière, puisque les textes, initialement, ont été, la partie petite chronique des textes dont tu as parlé, ont été publiés sur un certain réseau social, que je ne nommerai pas, mais en tout cas, ça s'est déployé sur ce réseau pendant plusieurs années, puisqu'il y a eu deux ans, disons, d'écriture avant que le projet de spectacle n'émerge, et avec la particularité de vraiment, en fait, déjà d'engager une forme de dialogue, puisque en fait, je n'avais pas prévu d'écrire, mais le fait d'être lu a déclenché l'écriture en retour. Et j'ai écrit un premier poste une fois, et puis je ne pensais pas du tout en écrire d'autres. Et puis au final, j'en ai écrit une cinquantaine, mais parce que quelque chose s'est engagé sur le principe de l'écriture et lecture immédiate et des échanges qui se sont déclenchés dans ce cadre très particulier, puisque c'est comme si en fait ça créait un nouveau... ce nouveau cadre d'écriture créait aussi une nouvelle écriture. Enfin, je ne sais pas très bien comment expliquer. Le fait d'écrire dans ce cadre-là déclenchait quelque chose dans la relation au lecteur. De différents, dans l'immédiateté de la lecture, dans la possibilité d'interagir, etc. Et puis donc au fil de cette expérience d'écriture, effectivement, l'idée de transposer cette expérience-là sur le réseau, sur un plateau, a émergé. Alors aussi parce que je suis comédienne et que voilà, c'était aussi évidemment relié à mon désir de théâtre. Mais puis à partir de là, j'ai réfléchi à cette chose-là, j'ai proposé à des comédiennes de m'accompagner dans ce projet. Et puis c'est à partir de là que d'autres textes en fait sont nés, qui eux n'ont pas du tout été publiés, qui sont d'une autre nature et qui n'ont pas du tout été publiés en ligne, mais qui sont de nature plus directement théâtrale et qui en quelque sorte ont constitué le point aveugle de ces chroniques, c'est-à-dire comme tu l'as dit juste avant, ce récit d'annonce de greffe et donc une chose qui était plus focus sur la relation à l'institution hospitalière et à l'équipe médicale. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Une alternance de dialogue et de textes écrits de théâtre,
théâtrale. Et avec, à partir de là, beaucoup d'allers-retours entre la table, le plateau, l'écrit et le retour à l'écriture dans le travail avec les actrices. C'est-à-dire que la version du texte, j'ai pas écrit une pièce. Ce qui aujourd'hui est devenu le texte du spectacle, c'est un agrégat de textes de nature différente qui ont abouti suite à des allers-retours justement au plateau avec les actrices aussi.
Cette création, ce passage à la création, t'a apporté la plus personnellement enfin...
Alors déjà, ce passage au plateau, il est en cours. C'est-à-dire qu'on est, vraiment en phase de recherche et de création. Le spectacle n'est pas encore créé. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est... Je pourrais sans doute mieux en parler quand le spectacle sera créé, mais en tout cas, dans le processus, il y a vraiment quelque chose qui, d'abord, est de l'ordre de pouvoir s'approprier une histoire et de la rendre partageable, de transformer en fait une expérience, de pouvoir la partager, et avec l'idée dans ce cadre précis, parce que j'aurais pu aller avec un monologue toute seule sur le plateau, c'était vraiment pas du tout l'objectif, c'est-à-dire que l'idée c'était vraiment de travailler sur une forme chorale pour justement décentrer un peu la parole, pouvoir c'est un sujet de débat cette histoire-là, c'est-à-dire la question de la relation à l'équilibre de la relation thérapeutique, de savoir qui décide, qui a la main, c'est aussi une relation de pouvoir, comment cette relation peut se rééquilibrer, sur quoi elle est basée, c'est un sujet de débat, c'est pas un sujet où les choses sont figées, donc ce travail choral, il permettait aussi d'engager cette dialectique-là et de pouvoir mettre en questionnement en fait, un peu comme avec cette fonction-là du cœur dans la tragédie. Alors, non pas que le projet soit une tragédie, mais par contre, ce travail choral, c'est vraiment ce travail de cœur sur la possibilité de mettre en jeu la parole, de mettre en questionnement. Voilà, c'est un peu ça l'idée pour moi. C'est de pouvoir repartager ça et de réengager un dialogue aussi, du coup, à travers le théâtre.
Oui. Donc, j'allais y venir. Il y a toute une dimension militante qu'on perçoit dans ton œuvre. Moi, alors, j'entends militante, ce que j'ai perçu, c'est d'œuvrer au dialogue médecin, hospitalier et patient, enfin, un engagement.
J'aimerais bien que ça marche comme ça, ça serait super. Oui, oui, effectivement. Il y a un désir de ça, en tout cas. Il y a un désir de pouvoir engager un échange autour de cette question-là, oui.
On a perçu nettement dans la lecture l'émotion, du choc, enfin, qui est raconté d'ailleurs dans, hein, dans le résumé de la pièce, du choc traumatique de l'annonce. Et est-ce que cela participe de... Oui, une guérison, enfin, comment on peut dire.
Oui, enfin, d'une guérison.
Catharsis, on pense au
guérison, d'une catharsis, allons-y, mais d'une guérison, ça serait trop.
Ça serait trop médical. Non, disons que oui, en tout cas, il y a quelque chose de dans le processus de compréhension, enfin, parce que ça participe d'un processus de compréhension aussi, de compréhension des enjeux, de compréhension de finalement qu'est-ce qui est. Oui, des enjeux de cette relation, et je pense que comme tout un tas d'autres sujets dans la vie, à partir du moment où on engage une réflexion, on prend aussi une distance, à partir du moment où on prend une distance, on se repositionne, et donc on sort du traumatisme. Enfin, moi en tout cas, engager ce travail d'écriture et après ce travail de création m'a permis de me dégager de ce qui, oui, ce qui s'apparentait à une sorte de choc post-traumatique, mais avec cette chose-là où on est bloqué, en fait, où on est figé, où on n'arrive plus à réfléchir à la situation et où on est pris, en fait. Donc voilà, ça m'a permis de retrouver du mouvement, quoi. Ne serait-ce que du mouvement dans ma pensée.
J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes.
Je me sens comme si j'étais dans les nuages, mais c'est juste des ronds de fumée. Chacune de nos vie à son minutage de plus ou moins longue durée. Quand t'as pas grand chose tu partages, quand t'as rien t'apprends à t'en passer. Je vais pas regarder le temps passer alors que je suis moi-même de passage, loin du paradis terrestre. T'as l'impression qu'on parodie tes rêves, dis-toi que tu pourrais déterrer tes ambitions, vois le bien s'emparer des ténèbres. Laisse-toi guider par tes intérêts, deviens celui qu'une simple lueur de soleil émerveille. Quel intérêt d'être surentraîné pour le sommeil éternel.
Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme. Alors je garde les mains tendues vers le ciel comme un arbre. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. Face à l'absence de lumière, mes yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes.
J'ai gravé sur la pellicule tant de moments irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais. Je me sens invulnérable.
Donc nous découvrirons cette pièce en mars 2022 à la Maison du Théâtre d'Amiens. En attendant, en préparant cette émission, nous t'avons demandé de choisir un texte que tu aimerais partager avec les auditeurs de Radio Campus. Alors, avec quel texte es-tu venu ?
Alors, je propose de vous partager les deux premières séquences de la pièce « Je tremble » de Joël Pommera, édité donc chez Actes Sud.
On en écoute tout de suite un extrait.
Un rideau s'ouvre sur une scène vide, faiblement éclairée. Un personnage en habit sombre apparaît par le fond. Il marche en direction du public. Il a un micro à la main. Le présentateur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de démarrer cette petite soirée, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelque chose, vous allez voir, d'un peu particulier. Nous voilà au commencement de cette soirée intitulée « Je tremble ». Soirée pendant laquelle il est peu probable que vous soyez amené à trembler vraiment, ce titre étant en réalité un titre comme ça, presque un titre par hasard. Par contre, il est une chose qui arrivera certainement. Et cette chose, je me dois de vous la dire, mesdames et messieurs. Je me dois de vous la dire. À la fin de cette soirée, au tout dernier moment de cette soirée, au tout dernier instant, je mourrai. Je vais mourir, oui. Au tout dernier instant de cette soirée, mesdames et messieurs, je vais mourir devant vous, devant vos yeux. Je ne vous en dirai pas plus, car il n'est pas temps de le faire. Mais peut-être y a-t-il des questions ? Un temps. On entend, provenant du fond, une voix. Psst, psst, hé, oh ! Le présentateur se retourne, une petite lumière au loin, un coup de feu, l'homme s'écroule. Un temps, Il se relève. Bon, je crois que la soirée va pouvoir commencer maintenant. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. À la fin, tout à l'heure, à la toute fin de cette soirée, je mourrai devant vos yeux. Et pour de bon, cette fois-ci. Voilà. Introduction d'une musique rythmée, Sex Bomb. Dans la vie, vous avez peut-être remarqué comme moi la différence que nous faisons entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Entre les choses sérieuses de l'existence et celles qui ne le sont pas. Tous les jours, on nous oblige à faire cette différence. Eh bien, mesdames et messieurs, pour nous, ici, vous allez le voir, vous allez pouvoir le constater, tout est sérieux. Ce soir, c'est la fête. Nous allons trembler de joie et pleurer de rire ensemble, mes amis. Tous ensemble, si vous le voulez bien. Noir. Silence. La scène est vide. Un rideau lumineux et scintillant masque le fond. À l'avant, un micro sur pied. Une femme entre et se dirige vers le micro, comme si elle allait chanter. Sa robe scintille, elle aussi. Sa voix résonne et prendra de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de la scène. La femme. Bonsoir, mesdames et messieurs. Avez-vous remarqué comme moi une chose ? Nous n'avons plus d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué ça, comme moi ? Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un présent ici ce soir de rêver sérieusement à un avenir pour lui et pour notre société, notre belle société humaine, je dirais dans les 3 derniers mois écoulés ? Un vrai beau rêve d'avenir pour notre société humaine. Est-ce que quelqu'un pourrait sérieusement me dire cela ? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu ? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom de Dieu, et vite ! Moi, j'en peux plus. Une idée, un avenir. Vous êtes où, les gens dont c'est le boulot, dont c'est le métier, dont c'est la responsabilité quand même ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes où, les gens qui êtes responsables des idées ? Vous ne pourriez pas me refiler un peu de rêve, quand même ? Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu ? Vous vous grattez le cerveau ou quoi ? Mais ça se gratte pas, un cerveau. Ça se fait chauffer, ça se fait bouillir, ça s'éclate et c'est tout. À coup de pensée. Des pensées bien fortes et surtout bien constructives. Voilà, c'est tout. Moi, je veux rêver, je vous le dis. Car j'y ai droit, comme tout le monde. Car j'en peux plus. Je veux mon avenir. Je veux qu'on me donne mon avenir, j'y ai droit. La femme arrête subitement de parler, mais on continue à entendre sa voix qui résonne dans tout le théâtre. Qui pourrait prétendre que je n'ai pas le droit à mon avenir ? Qui pourrait venir me dire en face que je n'ai plus le droit de rêver à mon avenir, à un bel avenir, à un avenir qui puisse m'enthousiasmer, un rêve qui puisse me porter, qui puisse m'emporter avec ses ailes, ses grandes ailes de l'euphorie, de l'optimisme et du plaisir vers mon avenir ? Qui ? Ah non, vraiment, je ne suis pas contente. Ce soir, je ne suis pas contente. Et je le dis. Voilà. Noir.
C'était notre émission Rue des Majots avec Sophie Thorezi, comédienne, autrice d'Apnée, pièce que nous retrouvons en mars 2022 à la Maison du Théâtre. Merci Sophie.
Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampusamiens.fr. Nous nous retrouvons dans 15 jours. D'ici là, bonne retrouvaille sur les planches. Des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.